Téhéran fustige le silence de la communauté internationale face aux actes terroristes en Iran. L'attaque aérienne d'Israël contre le port syrien de Banias a fait 4 morts. Et la sécheresse extrême aggrave la faim dans la corne de l'Afrique, qui est également en proie à des conflits, avertit le programme alimentaire mondial. C'était les principaux titres, en voici le détail. Suite aux récents attentats terroristes en Iran, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la communauté internationale se devait de condamner ces actes terroristes et prendre les dispositions nécessaires pour contrecarrer le regain de violence. La grande nation iranienne et la communauté internationale ont été témoins de la cruauté d'un groupe de terroristes contre des civils et les forces de sécurité iraniens dans les villes d'Izeh, Isfahan et Mashhad. Malheureusement, des compatriotes, dont des femmes et des enfants innocents, ont été tués ou blessés dans des attentats terroristes, précise le communiqué. Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné ces attentats terroristes abjects et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et au peuple iranien. Sans aucun doute, le silence délibéré des parrains étrangers des émeutes et des violences en Iran vis-à-vis des attentats terroristes ne fait que propager le terrorisme à travers le monde, note le communiqué. Les tueries dans les villes d'Izeh, Isfahan et Mashhad qui ont subi l'attentat de Shahrchelag à Shiraz prouvent une fois de plus comment les ennemis de l'Iran cachent leur vrai visage derrière le masque de la sympathie avec le peuple iranien. Les lois internationales condamnent le terrorisme dans toutes ses formes, en tout lieu et à tout moment. Par conséquent, la communauté mondiale et les organisations internationales se doivent d'empêcher la création d'un foyer de propagande de la violence et de l'extrémisme, ajoute le communiqué. La République islamique d'Iran se réserve donc le droit de poursuivre en justice les terroristes et leurs sponsors de l'étranger, selon le ministère iranien des Affaires étrangères. À l'appui des travaux des services de renseignement, tous les appareils diplomatiques de la République islamique d'Iran conjuguent leurs efforts pour assurer la défense des droits de la nation, de la souveraineté et de l'indépendance du pays. L'Iran a interdit l'importation d'automobiles françaises en raison du comportement non professionnel de Paris et ne lui permettra pas d'exercer des pressions sur l'industrie et le marché automobile du pays en recourant à des sanctions, a déclaré ce vendredi 18 novembre le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce. Il a déclaré qu'aucune licence n'avait été récemment délivrée pour l'importation de voitures en provenance de France, soulignant que l'industrie automobile iranienne se concentrait désormais uniquement sur les produits non français, principalement en provenance du Japon, de Chine et de certains pays européens. La décision a été prise alors que les tensions entre Téhéran et Paris sont montées d'un cran ces derniers mois à la suite des émeutes éclatées en Iran après la mort d'une Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, à la mi-septembre. Utilisant les manifestations comme couverture, les émeutiers et les voyous, dont beaucoup avaient des liens avec des parties étrangères, se sont déchaînés, se livrant à des attaques sauvages contre des agents de sécurité, à des actes de vandalisme, à la profanation de lieux sacrés et à des meurtres sous fausse bannière de civils pour incriminer la police iranienne. La France a été l'un des pays européens à s'ingérer dans les affaires intérieures iraniennes. Elle a vivement critiqué ce qu'elle a qualifié de répression des manifestations, l'Union européenne imposant une série de sanctions aux responsables et entités iraniennes. Le président français, Emmanuel Macron, a rencontré la semaine dernière un groupe de dissidents iraniens et s'est engagé à soutenir la soi-disant révolution en Iran, ce qui a provoqué la vive réaction de Téhéran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a condamné la réunion. Il a déclaré qu'il était regrettable et honteux que Macron ait exprimé son soutien aux émeutes. Certains ressortissants français ont été détenus en Iran ces derniers mois. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, les qualifiant mercredi d'agents du renseignement français qui seront traités conformément à la loi. Ce samedi 19 novembre, l'armée de l'air israélienne a frappé au missile le port de Banias. 4 militaires syriens ont été tués. L'armée israélienne a lancé une attaque aérienne contre le port syrien de Banias, situé sur la mer Méditerranée, entre Latakia et Tartous, vers 6h30 ce samedi 19 novembre. Les zones centrales et côtières ont été visées. Selon l'agence de presse officielle du gouvernement syrien Sana, le système de défense aérienne de l'armée syrienne a intercepté plusieurs missiles. La frappe a fait 4 morts côté syrien, un blessé et des dégâts matériels. Parallèlement, une attaque au missile a eu lieu contre la base militaire américaine dans l'est de la Syrie. Selon la chaîne Telegram Savery News, il s'agit de la base militaire dans le champ pétrolier d'Al-Omar, dans la province de Deir ez-Zor. Dimanche 13 novembre, des rapports faisaient état de frappes aériennes contre la province de Homs. Les missiles ont traversé le Liban avant d'atteindre Homs, selon les images vidéo parues. La DSA syrienne a aussitôt réagi, a réussi à en intercepter plusieurs. Le bilan des dégâts causés n'a pas été communiqué. La Syrie a envoyé à plusieurs reprises de nombreuses lettres distinctes au Conseil de sécurité condamnant l'agression d'Israël contre le territoire syrien, lui demandant de prendre les mesures nécessaires pour mettre court à ces hostilités. Le gouvernement syrien accuse le régime sioniste et ses alliés occidentaux et régionaux d'assister les groupes terroristes en Syrie et se réserve le droit de défendre sa souveraineté. Israël frappe fréquemment des positions militaires à l'intérieur de la Syrie, en particulier celle du Hezbollah, qui a joué un rôle clé en aidant l'armée syrienne dans sa lutte contre le terrorisme soutenu par l'étranger. Israël est également l'un des principaux tenants des groupes terroristes qui s'opposent au gouvernement du président Bachar al-Assad. La Russie a accusé vendredi 18 novembre l'Ukraine d'avoir exécuté brutalement plus de 10 de ses militaires qui avaient été faits prisonniers, dénonçant un crime de guerre. Personne ne pourra présenter le meurtre délibéré et méthodique de plus de 10 soldats russes qui étaient immobilisés avec des tirs directs dans la tête comme une exception tragique, a déclaré le ministère russe de la Défense. Cette accusation intervient après la mise en ligne sur les réseaux sociaux de deux vidéos d'une trentaine de secondes chacune, présentées comme montrant l'exécution de militaires russes qui venaient de se rendre aux forces ukrainiennes. Sur la première vidéo, prise avec un téléphone portable, on voit un groupe d'hommes en uniforme militaire sortir d'une maison, les mains en l'air, puis s'allonger ventre à terre dans un jardin parsemé de débris, pendant que des soldats portant un brassard jaune pointent leurs armes sur eux. Une rafale de coups de feu retentit et la vidéo s'interrompt. La deuxième vidéo, prise depuis une hauteur, peut-être avec un drone, montre une douzaine de corps gisant au milieu de flaques de sang. L'un d'eux semble présenter une plaie au visage. Le Conseil russe des droits de l'homme a déclaré que les exécutions présumées avaient eu lieu dans le village de Makivka, dans la région de Luhansk, dans l'est de l'Ukraine, que l'armée ukrainienne a déclaré avoir repris cette semaine. Nous allons demander une réaction de la communauté internationale et une enquête, a déclaré le dirigeant de cet organe, Valery Fadiev. Nous sommes au courant des vidéos et nous les examinons, a déclaré à l'AFP un porte-parole des Nations Unies. Pour le ministère russe de la Défense, ces vidéos sont une preuve du massacre commis par les militaires ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes des armées. Ce meurtre brutal de prisonniers de guerre russes n'est pas le premier ni le premier crime de guerre commis, a-t-il poursuivi. La sécheresse extrême aggrave la faim dans la Corne de l'Afrique, qui est également en proie à des conflits, a averti le Programme alimentaire mondial PAM. Le PAM a déclaré dans sa dernière mise à jour de la situation régionale publiée jeudi soir que dans la Corne de l'Afrique, principalement à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, quelque 22 millions de personnes étaient actuellement confrontées à une grave crise de la faim après 4 saisons des pluies consécutives ratées. Il est alarmant de constater que ce chiffre devrait augmenter. Une cinquième mauvaise saison des pluies étant prévue d'ici la fin de l'année, a encore averti le PAM. Selon le PAM, les perturbations de l'approvisionnement en céréales et la hausse des prix causée par la crise en Ukraine ont poussé de plus en plus de personnes au bord du gouffre, dans des régions déjà éprouvées par la montée en flèche des coûts résultant de l'intersection du changement climatique, des conflits et de la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas le luxe de nous concentrer uniquement sur ce qui doit être fait aujourd'hui, a déclaré Michel Dunfer, directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est, cité dans le communiqué. Nous devons également commencer à nous préparer au prochain choc, qu'il s'agisse de la prochaine sécheresse, de la prochaine inondation ou de la prochaine crise, a-t-il ajouté. En Éthiopie, les prix des denrées alimentaires n'ont jamais été aussi élevés, et ce, depuis l'apogée de la pandémie de COVID-19, selon le PAM. Quelque 3,9 millions d'enfants souffrent de malnutrition sévère en Éthiopie, soit environ la moitié de tous ceux qui souffrent de malnutrition dans la Corne de l'Afrique selon les chiffres du PAM. Il s'agit de la pire sécheresse, la plus sèche qu'il y ait eu depuis 40 ans. Nous entrons donc dans une toute nouvelle phase du changement climatique, a déclaré M. Dunfer. Le PAM a également indiqué que les pénuries extrêmes de nourriture et d'eau avaient tué environ 7 millions de têtes de bétail dans la Corne de l'Afrique, mettant en péril les moyens de subsistance des éleveurs qui en dépendent pour leur alimentation et leurs revenus. Les écosystèmes fragiles dans lesquels ils vivent et le mode de vie que ces terres ont permis d'entretenir pendant des générations s'effondrent progressivement en raison de schémas climatiques erratiques, a-t-il averti. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis ont mis à l'épreuve la patience de Pyongyang. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré vendredi 18 novembre « Si Moscou préfère une approche diplomatique de la péninsule coréenne, il est clair que les États-Unis et leurs alliés dans la région préfèrent une autre approche. » Dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA Novosti, M. Ryabkov a déclaré que les États-Unis avaient mis la patience de Pyongyang à rude épreuve. L'essai de missile intercontinental de la Corée du Nord a suscité la colère et l'inquiétude du gouvernement américain. La porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, Adrienne Watson, a déclaré vendredi 18 novembre que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur propre territoire et de celui des pays alliés, tels que la Corée du Sud et le Japon. L'armée sud-coréenne a annoncé vendredi que la Corée du Nord avait lancé un missile balistique de longue portée depuis la zone de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est, précisant qu'il s'agissait du dernier d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines. Parallèlement aux exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis, la Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles. Le lancement est intervenu un jour après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique de courte portée. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a averti que Pyongyang mènerait une action militaire plus féroce si les États-Unis augmenteraient encore leur aide militaire au profit de leurs alliés régionaux. Dans le même ordre d'idées, de hauts responsables nord-coréens ont averti à plusieurs reprises qu'ils considéraient l'exercice militaire américain sur la péninsule coréenne ainsi que les exercices militaires avec la Corée du Sud et le Japon comme un acte hostile et une pratique pour attaquer la Corée du Nord. Les experts estiment que le lancement vendredi de l'une des armes les plus puissantes de la Corée du Nord est un signe clair que son dirigeant Kim Jong-un n'est pas satisfait des récents pourparlers. Au début du mois, la Corée du Nord a procédé à une série de lancements, dont un ICBM. Elle a également tiré un missile balistique à courte portée qui a franchi la frontière maritime entre les deux pays et a atterri près des eaux territoriales du Sud pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Après le tir du missile balistique nord-coréen, Tokyo a déclaré que le missile avait parcouru environ 1000 km et que les forces japonaises n'avaient pas tenté de le détruire en vol. Le ministre japonais de la Défense a également déclaré que le projectile avait atteint une altitude maximale de 6000 km et annoncé qu'il s'agissait d'un missile balistique intercontinental ICBM, ajoutant que le missile avait en outre le pouvoir de parcourir près de 15 000 km ainsi qu'une portée suffisante pour atteindre le continent américain. Le premier ministre japonais a qualifié l'essai de missile nord-coréen d'absolument inacceptable et a déclaré que le missile balistique intercontinental semblait être tombé en mer à l'intérieur de la zone économique exclusive du Japon, près de l'île d'Hokkaido.